Chapitre 5e, la basket d'osier. La péniche se trouvait à son point d'attache. Elle n'était pas partie, bien qu'elle fût vide depuis la veille, parce que le remorqueur qui devait l'emporter n'était pas encore arrivé. Martin Numa revit donc une fois encore son ami le marinier, dont il avait hier soir constaté la victoire. Ce matin, il portait sur la figure les traces du combat de la veille, car malgré sa peau tannée, on distinguait parfaitement des bleus et des noirs qui attestaient de la solidité des poings de son adversaire. Le patron de la péniche était là également. Quand ses travailleurs, braves gens au fond, ne font rien, le désœuvrement leur pèse, et ils cherchent à y faire diversion, tout en fumant d'interminables pipes, soit en buvant, soit en parlant. Ils en étaient ce matin à la diversion par la parole. Le patron vint s'asseoir sur l'herbe avec son marinier à côté de Martin Numa pour le voir peindre, et la conversation s'engagea. Martin Numa apprit du patron qu'il était très ennuyé parce que son second marinier avait disparu. « C'est un bon ouvrier, » déclara-t-il, « quand il est à jeun. Mais quand il a bu, il devient terrible, batailleur, et le reste. Hier, il s'est battu avec son camarade qui est là, puis il a disparu. Qu'est-ce qu'il est devenu, où est-il ? Mystère. » Il savait cependant qu'on partait ce matin, et ça m'ennuie qu'il ne soit pas là, parce que je voulais lui donner ses affaires. Je ne veux plus l'engager. Avec un caractère comme le sien, on n'est jamais sûr qu'il ne vous fera pas un mauvais coup. C'est une brute. Enfin. Si, quand nous partirons, il n'est pas rentré à bord, je ferai ma déclaration à Melun. Je laisserai ses affaires au commissariat, et il ira se faire pendre ailleurs. Tout en parlant, le capitaine demanda à Martin Numa s'il lui plairait de connaître l'intérieur d'une péniche. Martin Numa déclara que cela lui serait même très agréable. Alors le capitaine offrit à Martin Numa de visiter la sienne. Sur ces péniches est aménagé un logement dont les mariniers sont très fiers. Ce sont leurs maisons, leurs homes, leurs foyers ambulants. Ils s'en font une gloire de les tenir propres et de les parer de leur mieux. L'appartement du capitaine était convenablement tenu par sa jeune femme qui se trouvait là. À côté de l'appartement du capitaine venait la cabine de ses hommes, de celui que Martin Numa appelait son ami, et de l'autre, le vaincu de la veille. « Tenez, monsieur, » dit le capitaine en montrant sur le plancher un volumineux paquet. « Tenez, voilà les affaires de cet homme qui manque. Elles sont prêtes. S'il vient avant que nous partions, il les prendra, sinon je les déposerai au commissariat. » Martin Numa remarqua que les affaires de ce marinier qui ne rentrait pas, et lui savait pour quelle raison, étaient rangées non seulement dans un sac, mais que ce sac était placé dans une sorte de grande corbeille en osier comme une petite malle, une basket. Son coup d'œil lui fit deviner que cela devait être assez peu fréquent, et que l'usage de ces corbeilles d'osier ne se trouvait pas très répandu. Il en fit la remarque incidemment. Le capitaine répondit évasivement et, haussant des épaules dans un mouvement d'ennui, il dit « Évidemment non, on ne se sert pas de mal comme ça chez nous, surtout quand on les achète comme celles-ci ont été achetées. » Martin Numa demanda sur un ton très en l'air, comme sans y attacher la moindre importance, s'adressant au marinier, son ami. « Elles ont donc été achetées d'une façon bizarre. » Le camarade marinier hésita à répondre. Il grommela quelques mots inintelligibles dans sa barbe. Mais le capitaine qui avait entendu la question de Martin Numa se décida à répondre. « Bah, on peut bien l'avouer. C'est d'une façon plus que bizarre qu'elles ont été payées. Et il faut même que cet individu ait un rude aplomb pour s'en servir encore, après les avoir acquises de cette façon. « Ah, patron, » voulut dire le marinier, « on ne peut rien dire, parce qu'on n'a pas de preuves. » « Pas de preuves, c'est vrai, malheureusement, parce que si on en avait eu, il y a longtemps que cet oiseau serait sous clé. »« Patron, on ne peut pas dire. »« Mais enfin, on peut bien dire à monsieur, en causant comme ça, en ami, ici, parce qu'il ne le répétera pas, que ça restera entre nous. » Et avec une conviction absolue, il déclara « D'ailleurs, monsieur n'est pas de la police, et on ne pourra pas nous accuser d'avoir trahi un camarade. » Martin Numa ne sourcilla pas. Il s'apprêta à écouter les déclarations de ce brave homme. Le capitaine reprit « D'ailleurs, monsieur le peintre, si je vous dis ça, c'est que nous sommes, en quelque sorte, des amis et qu'on peut parler devant vous à cœur ouvert. Et puis, j'ai résolu de liquider ce gaillard-là, de ne plus le prendre à bord, de ne jamais l'employer. Ce qui s'est passé hier soir a achevé de me dégoûter de lui. » J'avais eu pitié encore une fois, et malgré ce qu'on m'avait dit, pour ne pas le laisser mourir de faim, je l'ai embarqué à ce voyage. Je m'en repens. Parce que hier, il a cherché querelle à mon compagnon, et que moi, je n'aime pas que les hommes que j'emploie se battent. C'est naturel. Quand il leur arrive de boire un peu plus qu'il ne faudrait, mon Dieu, à tout péché miséricorde, ils n'ont qu'à rentrer se coucher, je fais celui qui ne voit rien. Mais j'ai ma femme et mes enfants à bord, et je n'aime pas avoir près d'eux un individu qui, quand il est saoul, cherche querelle à tout le monde, ni surtout un citoyen qui a le couteau facile. D'ailleurs, c'est assez rare chez les mariniers, parce que nous formons comme une grande famille, nous nous connaissons tous. Faut pas chez nous de brebis galeuses. Alors je le débarque, celui-là. Et comme je ne le verrai plus, je peux vous dire que c'est une rude canaille, et l'histoire des mâles en osier, la voilà. » Le capitaine bourra une pipe, l'alluma et reprit. « Vous savez, monsieur le peintre, que les voyages sur l'eau, sur les péniches, sont longs. À part quelques manœuvres faciles et promptes dans les ports et aux écluses, il n'y a pas grand travail à faire à bord entre le chargement et le déchargement. Je m'en doute. Sur la péniche d'un ami à moi, depuis de longues années, voyageait un vieux marinier, un brave homme, qui était seul, sans famille, qu'on appelait le père Émile. Pour occuper son temps pendant le voyage, le père Émile s'amusait à tisser l'osier. Il faisait des paniers, des nasses pour attraper le poisson, des corbeilles, des petites malles et des baskets comme celles que vous voyez. Et il vendait ça aux pêcheurs qu'on rencontrait en route, aux femmes des mariniers, à nos camarades. C'était une occupation de brave homme. Notre ivrogne avait rencontré le père Émile et il lui avait pris ses deux baskets qui sont là. Puis, comme l'un descendait avec un train et que l'autre montait, l'acheteur avait oublié de payer son vendeur en lui disant qu'à la prochaine rencontre, il le réglerait. Je comprends. Le père Émile, bien à regret, dut passer par là et faire crédit au marinier. À la prochaine rencontre, ce fut quelques mois plus tard, près de l'écluse de Suresnes, le père Émile réclame le paiement de ses baskets. Naturellement. Que se passa-t-il dès lors exactement? Personne n'en sait rien. On a dit que l'acquéreur des baskets avait, devant d'autres mariniers, réglé son achat et que, pour remercier le père Émile de lui avoir fait crédit, il l'avait entraîné dans les cabarets qui se trouvent sur le bord de la rivière. Et les deux hommes avaient bu énormément. Puis, dans la nuit, on entendit le bruit d'une bataille, des cris, et enfin, le marinier qui avait acheté les baskets rentra dans sa péniche. Mais le train auquel appartenait le père Émile dut repartir sans avoir le brave homme à bord. Et de ce malheureux, on n'a jamais plus eu des nouvelles. Martin Numa alors insinua. Et on soupçonna par conséquent le marinier d'avoir jeté à l'eau le malheureux fabricant de corbeilles. On dit qu'après avoir pas mal bu tous les deux, mon homme a entraîné le père Émile sur la berge déserte, que là il a voulu lui reprendre l'argent qu'il lui avait donné pour le prix de ses baskets, qu'ils se sont battus et que beaucoup plus fort que le vieux vanier, il l'a assommé, puis jeté à l'eau. Depuis, on n'a jamais retrouvé le cadavre du père Émile. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et comme on n'a pas eu de preuve, qu'on n'a pas pu établir que ce marinier avait assommé et fait disparaître le vieux père Émile, on l'a laissé tranquille. Mais nous sommes tous convaincus qu'il a commis cet assassinat. Aussi, je vous déclare que j'ai fini de l'employer chez moi, qu'il aille se faire pendre ailleurs. » Martin Numa ne fit aucune réflexion, et sans avoir l'air d'attacher grande importance à ce récit, il sortit de la cabine, remonta sur le pont de la péniche, puis, comme le train qui devait emmener cette péniche arrivait, que le remorqueur faisait entendre sa sirène, il serra une dernière fois la main de ses deux camarades, leur souhaita bon voyage, et sauta à terre pour aller retrouver sa toile et ses pinceaux. À l'heure du déjeuner, il rentrait à la villa de son ami, que Prosper avait mis au courant des événements de la nuit. Il faisait sortir de nouveau la voiture et avec son second, Prosper se rendait à Fontainebleau. L'ivrogne avait achevé de cuver son vin et, tout ahuri, abruti, ne comprenant pas ce qui avait pu lui arriver, il demeurait à la gendarmerie en proie à une inquiétude des plus vives. Martin Humain ne se rendit pas, comme il est facile de le comprendre, à la gendarmerie. C'eût été trahir son incognito, en quelque sorte, s'exposer à une surprise, à une indiscrétion. Il avait donné à Prosper l'ordre de fixer un rendez-vous au brigadier de gendarmerie dans un endroit de la forêt. C'est là qu'il arrêta la voiture comme pour demander un renseignement au brave gendarme, qui assis au pied d'un chêne, en souvenir sans doute involontaire du grand roi Saint-Louis, lequel avait besoin de ce feuillage symbolique pour rendre la justice, fumait tranquillement une bonne pipe. Martin Numa, d'ailleurs, n'échangea que quelques paroles, mais il remit au gendarme un pli cacheté que celui-ci, très rapidement et très prudemment, enfouit dans la poche intérieure de son uniforme. Puis, ayant fait quelques tours dans la forêt, Martin Dumas et Prosper revinrent à la villa. Deux jours après, le roi des détectives rentrait à Paris. Toujours habillé en peintre amateur, orné d'une barbe en pointe comme la tradition le veut, comme les rapins, depuis l'illustre Cabrion, doivent être munis, il se rendit au dépôt. Là, dans l'antichambre du juge d'instruction, se trouvait le marinier arrêté d'après un mandat établi la veille selon toutes les règles nécessaires. Martin Dumas entra dans le cabinet du juge d'instruction et rapidement lui fit connaître ce qu'il avait appris de la bouche du capitaine de la péniche et de son ami le marinier. Puis, se débarrassant de sa fausse barbe, inutile ici, il s'apprêta à assister à l'interrogatoire de l'ivrogne. L'interrogatoire se fit selon les règles ordinaires. Le juge d'instruction commença par demander à cet homme ses noms, prénoms, etc. Puis, comme l'en avait prié Martin Dumas, brusquement il lui dit « On vient de retrouver le père Émile. » Le marinier qui avait pris place sur une chaise se leva d'un bond et s'écria « C'est faux, c'est pas moi qui l'ai tué !» Rien ne pouvait mieux condamner cet homme, affirmer sa culpabilité que cette dénégation accablante. La culpabilité de ce misérable ne faisait désormais aucun doute. Mais ce n'était pas seulement cela que cherchait Martin Dumas. Ce qu'il voulait, c'était s'offrir une première satisfaction. Il avait affirmé, au début de cette affaire, qu'il ne lui suffisait pas de prétendre, de déclarer que le cadavre devant lequel on avait amené Madame Vidal, sa fille, et ceux qui pouvaient reconnaître le garçon de recette disparu, n'était pas, ne pouvait être le corps d'Éloi Vidal, mais qu'il voulait donner la preuve que c'était celui d'un inconnu dont il se faisait fort, lui, Martin Dumas, d'arriver à établir l'identité. C'était une sorte de justification qu'il voulait se donner à lui-même pour mieux asseoir la vérité de ses assertions. Ainsi donc, le misérable, reconnu coupable d'assassinat, vit son mandat de dépôt se changer en mandat effectif d'arrestation. Le lendemain, on le confrontait avec le cadavre, devant lequel Madame Vidal et sa fille avaient tout d'abord répandu des larmes, et que sans l'intervention du roi des détectives, on eût probablement reconnu pour être le corps du malheureux Vidal disparu. Mis en présence de ce cadavre, conservé dans la glace, le misérable fut pris d'un tel tremblement, d'une telle frayeur, qu'il n'hésita pas un seul instant à avouer son crime, à reconnaître sa culpabilité. Cela suffisait au juge d'instruction. Mais quand on eut emmené le coupable, défaillant presque de terreur, Martin Dumas alors s'approche du corps et dit au magistrat présent « Je vous avais fait remarquer lors de la première confrontation les callosités qui se trouvent au rebord des mains sous le petit doigt. Je vous ai fait remarquer aussi que les pieds de cet homme étaient pleins de durillons jusqu'au milieu de la plante. En effet, nous savons désormais que le père Émile était un marinier, qu'il allait toujours pieds nus et qu'il s'était blessé plusieurs fois à des clous qui, bien qu'on prenne grand soin de les enfoncer, parviennent cependant à sortir des planches. Blessure assez fréquente. Émile, étant à la manœuvre sur les quais et sur les berges, avait rencontré des tessons de bouteilles, des silex tranchants, qui lui avaient fait aux pieds ses nombreuses blessures dont il gardait les cicatrices. Constatées par vous. Nous avons maintenant l'explication des callosités qui se trouvent sous les petits doigts de ses mains. Ces durillons sont peu fréquents, nous en savons la cause. C'est en tissant l'osier, c'est en travaillant les roseaux flexibles qu'il l'assujettissait en tirant dessus, les premiers à pleine main, tirant vers le haut, faisant passer les branches sous la paume de sa main le long de son petit doigt, que le père Émile s'est formé ses callosités singulières aux mains. Très juste. Le doute n'est pas permis. C'est bien là le cadavre du malheureux père Émile, le vannier qui fabriquait des baskets pour les mariniers, que nous détenons, et je vous démontre ce que je vous avais annoncé tout d'abord. Puis il sortira, ayant fait promettre aux assistants de ne pas révéler encore sa présence et de tenir le secret. Le résultat de cette confrontation était déjà pour lui un premier point d'acquis dans cette mystérieuse affaire de la disparition du garçon de recette Éloi Vidal.